Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme. Ouais.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Bonjour à tous, on va parler donc de ce Brésil-Suisse qui a eu lieu hier soir en Coupe du Monde en Russie avec un Neymar qu'on attendait tous et malheureusement ça a accouché d'un flop, un gros flop, le petit Neymar. Depuis qu'il est parti en convalescence du PSG, malheureusement on n'a pas réussi à le retrouver dans un grand match encore une fois. Et Thibaut, toi qu'est-ce que tu en as pensé de ce Neymar hier soir qu'on a vu?
Écoute, c'est sûr qu'il peut mieux faire mais je... précise que c'était son premier match officiel, je compte pas les matchs amicaux, donc j'ai trouvé au début du match assez en jambes, il a pas mal tenté, provoqué, enfin, il a baissé de pied, mais il n'y a pas que lui, il y a toute l'équipe du Brésil qui s'est un peu endormie après avoir marqué et faire une très bonne entame, donc, mais j'ai trouvé Neymar un peu comme d'habitude, il n'est pas au point encore physiquement, mais voilà, un peu comme d'habitude, cherchant des fois trop en faire, à chercher la faute.
Ouais, c'est vrai qu'il était souvent par terre durant ce match-là. Il a subi 10 fautes. C'est le joueur qui a subi le plus de fautes depuis 1998, il paraît, dans un match. C'est assez étonnant qu'ils aient sorti une stat comme ça sur beIN Sport. Ça m'a un peu choqué parce qu'avec toutes les Coupes du Monde qu'il y a eu, si c'est vraiment le joueur qui a subi le plus de fautes dans un match, c'est quand même dingue. Ça montre que vraiment l'adversaire le craint. Et les Suisses, hier, je pense qu'ils ont eu un gros sursaut d'orgueil par rapport au fait qu'ils étaient partis pour s'en prendre 4 ou 5 selon les spécialistes. Et ils ont fait un super match défensivement et tactiquement. Surtout, ils ont proposé du jeu offensif aussi. Salut Florian, tu es avec nous aussi. T'en as pensé quoi, toi, de ce Brésil-Suisse hier soir?
Salut à tous déjà. Brésil-Suisse, ouais, je m'attendais à une belle victoire, bon, une large victoire du Brésil. Et en fait, on s'est rendu compte que les Suisses avaient, comme tu as dit, a bien défendu, ont bien joué. Et bon, ils ont égalisé sur le corner le début de deuxième mi-temps, leur seule action deuxième mi-temps d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas eu grand-chose derrière. Et voilà, Neymar. C'est dommage qu'il ait passé plus de temps à provoquer des fautes qu'à vraiment jouer son football comme il sait le faire, quoi. J'ai trouvé ça dommage, mais c'est pas typiquement le joueur qui remet en une touche de balle ou qui joue comme ça. Donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, pas vraiment, quoi.
Mais c'est vrai que Neymar, on attendait quand même quelque chose de plus. Je trouve au niveau de la spontanéité dans le jeu, qui porte un peu plus son équipe vers l'avant, qui propose des choses collectives. Et il est retombé dans les travers de la Ligue 1 qu'il connaît avec le PSG en fin de saison avant qu'il se blesse. Je dirais après le mois de décembre, surtout à Paris, juste avant qu'ils affrontent le Real. Et puis on avait trouvé un Neymar un peu... Et il avait du mal à faire des choix, il dribblait un peu trop et gardait le ballon. Et puis là, hier soir, il ne nous a rien montré, je trouve, d'extravagant. Sincèrement, Thibaut, toi, en connaissant le Neymar du PSG, est-ce que tu as vu une grosse différence avec celui du Brésil hier?
Pas tellement, c'est le Neymar qu'on a retrouvé avant sa blessure, je veux dire. Mais après, de toute façon, comme je dis, qu'on reste sans jeu pendant 3 mois, retrouver son niveau tout de suite, ça me paraît difficile. Je pense que... Comme j'écoutais un peu droite à gauche, si le Brésil veut dire se qualifie, je pense que ça va être le cas pour les 8e. Neymar va monter petit à petit en régime, je suis même certain. C'est-à-dire qu'il va être, mais hier, moi, je l'ai trouvé pas très aidé parce que c'est paraissait copier Coutinho a fait un bon match, mais j'ai trouvé par exemple, on en parlera, le choix de Gabriel Jesus en pointe parce que j'ai pas compris. Alors que Firmino, je trouve que quand il est rentré, le Brésil a beaucoup mieux joué en fin de match et a eu beaucoup d'occasions. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. J'ai trouvé une très bonne. Firmino, j'ai trouvé beaucoup mieux que Gabriel Jesus, ce qu'il a montré.
Ouais, c'est vrai.
Vas-y.
Parce que quand tu vois Gabriel Jesus, il n'a pas beaucoup proposé, et puis il n'arrive pas, je veux dire, il n'a pas beaucoup joué avec les autres attaquants, alors que quand Firmino est rentré, j'ai trouvé beaucoup plus, un joueur mis, Firmino et Neymar, je trouve que ça collerait plus que Gabriel Jesus et Neymar, au niveau dans la relation technique.
Ouais, tout à fait, hein, c'est vrai. Firmino, il a apporté un peu plus de jeu devant le but par rapport à Gabriel Jesus, qui a été assez emprunté au milieu de terrain, qui a un peu trop décroché, je trouve, qui était souvent pas dans les positions que demandaient certains milieux de terrain brésiliens pour lui donner le ballon. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce joueur, il n'y a pas d'automatisme, c'est peut-être pas sa position. Avant-centre pur, je veux dire, peut-être qu'il a besoin de jouer avec quelqu'un d'autre en pointe. Faudra voir ça dans le futur. Mais toi, Florian, tu les vois comment, les Brésiliens, pour leur prochain match? À ton avis, est-ce que le niveau va monter pour eux, ou ils vont être en difficulté
ils vont monter progressivement, le Brésil. Ça, je m'en fais pas. Ils vont se qualifier pour les huitièmes. C'est pas vraiment un souci, ils vont monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Et je pense qu'on verra vraiment le vrai visage du Brésil à partir des huitièmes, à partir des matchs à élimination directe, quoi. Ouais. Là, les grosses équipes vont commencer vraiment à jouer et on va voir vraiment autre chose que ce qu'on voit en poule, quoi.
Mmh. Et c'est vrai que les premiers matchs, c'est assez trompeur finalement, parce que les petites équipes... Bon, là, on est actuellement Belgique-Panama, mais c'est des équipes capables de résister pendant 45, voire 90 minutes et d'arriver à accrocher un match nul sur la première journée et puis ensuite complètement couler avec un 4-5-0 lors des prochains matchs. On a souvent vu ça. Bon, malheureusement, il y a eu l'Arabie Saoudite qui, dès le premier match, s'est fait exploser, donc j'imagine pas le reste. Mais on a eu l'Islande, on a eu je sais plus qui, tu as eu Maroc-Iran avec un match nul, un match qui s'est débridé sur un but contre son camp. Il y a pas mal d'équipes comme ça qui peuvent jouer les matchs nuls dès le début, même si elles n'ont pas les qualités techniques grâce à leur physique, quoi. Voilà.
Bah écoute, c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les équipes se préparent surtout, je veux dire, les petites équipes sans manquer de respect, sont prêts que surtout pour les premiers matchs. Et puis les grandes équipes sont programmées pour la préparation physique pour les huitièmes quarts de finale. Mmh. Donc elles atteindront leur pic de forme à ce moment-là.
Ouais, je pense aussi, je pense. D'ailleurs, il y a l'Australie qui aurait pu jouer un mauvais tour à l'équipe de France. Hein. On en parlait avec Nico l'autre jour. On se doutait que les médias français auraient démonté l'équipe de France, et moi j'avais pas regardé, si tu veux, ce qu'avait dit l'équipe et ce qu'avaient dit les autres journaux télé, mais ils se sont fait massacrer, l'équipe de France, hein, massacrer. On a parlé d'un match minable, etc. Enfin, il y a eu des qualificatifs très très durs. Finalement, nous, quand on a analysé le match ce jour même, t'étais là, Thibaut, je crois.
Oui, j'étais là, ouais.
On a été assez, assez clément, et puis on a plus été dans l'aspect tactique. On n'a pas trop saqué les joueurs, quoi. Par contre, les médias, l'équipe et tout ça, moi, j'ai été super surpris de les voir dès le premier match, mais défoncer l'équipe de France, hein, c'est quand même incroyable. Alors, je suis content que ça se passe en Russie. Du coup, peut-être que les joueurs français sont pas trop au courant de ce qui se passe dans les médias français. Mais c'est assez démoralisant, je trouve, que la presse soit tout de suite contre l'équipe de France dans sa façon de jouer. Vous en pensez quoi, vous, des médias français, justement, qui ne supportent pas l'équipe?
Honnêtement, Gabi, venant de l'équipe, ça ne m'étonne même pas que sur une prestation... Enfin, je veux dire, oui, c'est clair, il y a eu des choses qui n'étaient pas belles à voir. Ce n'était pas un match vraiment terrible de l'équipe de France, certes. Mais venant de l'équipe, tu vois, ça ne m'étonne pas qu'ils désignent comme ça l'équipe de France. Et de toute façon, au moindre truc, de toute façon, l'équipe, c'est comme ça. Donc, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Et même si ce n'est pas sur le terrain, ça sera en dehors, et c'est ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas.
Il y a eu CNews aussi, il y a eu Canal+ avec Pierre Ménès, il y a eu, je ne sais plus, RTL avec Pascal Pro. Enfin, j'ai vu plein de médias vraiment être déjà pessimistes pour les huitièmes de finale, déjà, quoi.
Alors que ce n'est qu'un match, parce que je pense qu'après, ils ont dû ravaler un peu en fierté en voyant les autres matchs où l'Allemagne, où toutes les grosses équipes, il n'y a que la France qui a réussi, je veux dire, à son entrée en lice en prenant 3 points, alors que l'Allemagne, Espagne, l'Espagne c'est contre le Portugal, donc on pouvait expliquer un match nul, mais qu'allait prévoir que l'Allemagne allait se raccrocher, que le Brésil allait se raccrocher, voilà, c'est les premiers matchs, faut pas juger.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire, j'aurais de la France, on aurait gagné 6-0 contre l'Australie. J'imagine l'équipe, génial, on va être champion du monde. Non, il ne faut pas s'enflammer, je veux dire, c'est un premier match. Il est trop tôt pour tirer les plans sur la comète.
Voilà, ce que je voulais dire au tout début, c'était voilà, que l'équipe de France, peut-être qu'elle montera en puissance lors du troisième et des huitièmes de finale, le troisième match. Mais là, voilà, c'est une équipe qui souffre physiquement, ça se voit, parce qu'ils ont peut-être fait une préparation assez, assez poussée. Et je pense que voilà, par rapport aux petites équipes qui arrivent avec un ou deux matchs dans leur tête, en pensant même pas sortir des groupes, bah, ils n'ont pas fait spécialement une grosse préparation. Et puis, ils vont livrer des problèmes aux grosses équipes dès les premiers matchs. Mais par contre, si les grosses équipes passent, je pense que sur la durée, la France, l'Allemagne, etc., comme l'Argentine aussi, je pense qu'ils vont relever la tête. Hein. Mais c'est qu'une perception des choses de ma part. Hein, mais
puis on a bien vu après l'Australie, enfin le match contre la France, j'y reviens encore, après le deuxième but de Pogba, il était complètement cuit physiquement. On sent que les petites équipes pêchent vraiment en fin de match.
Ouais.
Toutes les D'ailleurs, dans cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués dans les 10 dernières minutes.
Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, comme a dit Florian, pour le Brésil, parce qu'ils ont eu 2-3 actions qui ont frôlé les poteaux. Ils auraient dû marquer et emporter ce match sur la fin. Et ça a manqué d'efficacité, on va dire, le Brésil, et un peu trop de folklore. Il y a certains commentateurs sur beIN Sport à l'étranger qui ont parlé de cirque en voyant Neymar jouer, en qualifiant sa prestation de digne d'un homme, je veux dire, qui veut faire le show mais qui n'est pas efficace dans ce qu'il fait. L'important pour le Brésil hier, c'était de gagner. Et on s'est retrouvé avec un match où justement il y a eu un peu trop de showman sur le terrain. Il y a Marcelo qui est toujours au poste. Hein. C'est vraiment le joueur clé, je trouve, au niveau défensif, milieu de terrain, pour remonter les ballons. C'est un de ces joueurs sur lesquels le Brésil doit s'appuyer pour les prochains tours.
Et j'ai trouvé un bon Thiago Silva en défensivement. J'ai trouvé rassurant, physiquement au point dans les duels. Je veux dire, non. Après, le Brésil, je veux dire, a eu tort à un moment. Je crois que sur le but, c'est sûr qu'il peut sentir lésé. Il y a une faute quand même Real de Miranda, donc sur le but de Zuber. Mais après, je pense que ça va leur servir. Je pense que ce match tombe bien pour le Brésil, ça va leur servir de leçon tout de suite. Hein. Je trouve que c'est pas plus mal que ça s'accrocher maintenant.
Mmh. C'est vrai qu'il y a, sur le but de la Suisse, il y a une poussette dans le dos. Mais il y a un truc important qu'ont dit certains commentateurs, comme Christian Vieri. Je sais pas si vous l'avez vu sur beIN Sport hier. Non.
Si, j'ai vu. J'ai pas tout lu, tout entendu ce qu'il a dit.
Il a dit que lui, à l'entraînement en Italie, si tu veux, il part du principe que le défenseur va essayer de t'accrocher dans la surface, quoi qu'il arrive, et de sauter avant toi, et de mettre les mains, etc. Donc, si tu veux, le réflexe de Zuber, c'est Zuber qui a marqué, c'est ça hein.
C'est ça, ouais.
C'est le réflexe de Zuber, c'est de mettre déjà les mains sur le défenseur pour l'empêcher, justement, que le Brésilien l'attrape. Et Vieri disait qu'à l'entraînement, il passait des séances énormes à combattre avec des défenseurs justement pour avoir la main dès que la balle partait. Et si tu veux, il sautait déjà avant que le ballon arrive. Et là, ce qui se passe, c'est que le Brésilien n'a même pas essayé de chercher à jouer le ballon. Et le Suisse avait de l'avance déjà. Donc les mains, en fait, elles étaient juste, si tu veux... Vieri pense que les mains n'ont pas empêché le Brésilien de sauter, c'est juste qu'il n'a pas eu envie de sauter le Brésilien. Donc après, c'est toujours un problème d'interprétation. Florian, t'en penses quoi, toi, de ce but?
Réclamer une faute là-dessus, enfin, chaque corner, chaque coup franc dangereux, il y a toujours des poussettes dans la surface. Donc j'ai trouvé la réclamation du Brésil un peu inutile, quoi, parce que bon. Mais après, Miranda, déjà. Oui, Zuber le pousse, mais pourquoi il colle pas plus Zuber, quoi? Pourquoi parce que quand tu regardes l'image, en fait, il se fait pousser deux fois, tu vois.
Pourquoi il est deux fois déjà? Pourquoi il est... Ouais.
Mais surtout, c'est qu'en Italie, il a l'habitude, il joue à l'Inter, donc il sait très bien comment ça se passe avec les attentes qu'il y a qui sont assez malins. Donc, il ne devrait pas être surpris.
Pour moi, il n'y a, a pas faute. Le but est largement valable. Mais j'avais une question par rapport à Miranda et Marquinhos. Parce que Miranda, je ne connais pas vraiment. Est-ce qu'il va être vraiment supérieur à Marquinhos en défense centrale comme ça?
Ça a l'air d'être la même qualité. Hein. Je pense peut-être que Marquinhos, il a plus de qualité offensive après, peut-être. Je ne sais pas.
Non, parce que je pense qu'une explication, c'est que comme Marquinhos a été blessé à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, Gabi, il a loupé quelques matchs du PSG, et Miranda et Thiago Silva étaient admis en équipe du Brésil, et cette paire avait fait 6 matchs sans prendre de but. Donc, je pense qu'il a voulu garder une continuité, le sélectionneur brésilien. Mais c'est vrai que Marquinhos, que ce soit défensivement ou offensivement, moi je vois faire des matchs au PSG, il est rarement prêt à défaut de la tête. Hein.
Ouais, il est très bon, Marquinhos, hein. Ouais, très très bon. En plus, je veux dire, si à un moment donné, il est amené à être titulaire avec Thiago Silva, c'est des joueurs qui se connaissent, donc je pense pas que ça posera de soucis. Hein. C'est vraiment... Le Brésil a de la chance de ce côté-là, hein, parce que malheureusement, en équipe de France, on n'a plus Koscielny. Pour retrouver une paire de défenseurs centraux, ça va être compliqué à un moment donné si quelqu'un se blesse.
Je voudrais rendre hommage à l'équipe suisse qui a joué avec ses valeurs, avec un très bon Bérame du milieu de terrain qui a ratissé un nombre incalculable de ballons. Et puis quand j'ai vu la Suisse jouer, ils n'ont pas fait genre rester derrière et tout. Ils ont cherché à chaque fois à sortir le ballon, construire, etc. avec des très bons latéraux comme Lichtsteiner, Ricardo Rodriguez. Non, c'est une équipe, je pense, qui va se qualifier en 8e.
Bah, la Suisse, c'est comme le Mexique, en fait. C'est plus des petites équipes à prendre à la légère, ces pays-là, en fait. Le Mexique, ça fait combien d'années qu'ils ont prouvé que à chaque Coupe du Monde, ils étaient présents. Et les Suisses, c'est pareil. Quand tu regardes des joueurs en Suisse, ils évoluent tous dans le championnat allemand, il y en a dans le championnat italien. Enfin, c'est des joueurs qui s'exportent et qui jouent dans des grands clubs dans d'autres pays. Donc, ça m'étonne pas que les Suisses, aient, au final, aient sorti ce match-là. Quoi.
Ouais. Et les Suisses sont en nette progression, je trouve, tactique et technique depuis 2014, où ils avaient pris l'eau contre la France avec un 5-2, voire un 6-2, le dernier but qui avait été annulé de Benzema à la dernière seconde. Mais par rapport à 2014, ils avaient fait un bon euro aussi en France, avec Shaqiri qui a été très bon aussi hier soir, j'ai trouvé. Il a manqué de justesse dans le dernier geste. Mais il nous avait mis un superbe retourné à l'Euro 2016 qui avait été élu dans les meilleurs buts.
Plus beau but, ouais.
Plus beau but qu'un.
Ils avaient été, je crois. Et en plus, la Suisse a été sortie au pénalty par la Pologne. Donc, et à chaque fois, les Suisses, dans les compétitions, à chaque fois, ils ont été sortis. C'est souvent en prolongation, voire tir au but. C'est une équipe qui est très difficile à bouger. Donc, et si on ne fait pas un match sérieux, n'importe quelle que soit l'équipe, ça peut être l'Argentine contre la Suisse ou n'importe qui. La Suisse peut très bien à chaque fois s'en sortir parce qu'ils sont un collectif et c'est des joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années qui jouent ensemble. Si vous vous souvenez en 2014, je pense que vous avez reconnu la plupart des joueurs suisses.
Ouais, bien sûr, c'est les mêmes à quelque chose près. Hein. Il leur manque un avant-centre vraiment à la fraie quoi. S'ils avaient un petit avant-centre là, comme Chapuisat à l'époque il y a une vingtaine d'années, voilà, il leur manque un gros finisseur devant.
Il y a Mbolo, mais qui est a priori prometteur, mais c'est vrai que Seferovic, ça pèse, mais c'est pas du tout efficace.
C'est pas... Je sais pas s'il est d'origine serbe ou quoi, mais c'est dans la trempe des attaquants, justement, anciens yougoslaves, qui ont du mal à finir les actions, on va dire simples. Ils ont besoin de faire un exploit quand ils marquent. Si vous avez regardé la Serbie jouer, il y a eu des actions vraiment assez faciles à terminer. Et puis malheureusement, à chaque fois, l'avant-centre s'est empêtré dans les derniers gestes. Et Seferovic, bon, c'est un peu pareil. Hein, c'est le même genre de joueur. Mais bon. Enfin voilà, quoi, pour ce Brésil-Suisse, j'espère que Neymar changera de coupe de cheveux parce qu'il s'est fait tellement manquer sur les réseaux.
Vous avez vu Dimeco avec les spaghettis qu'il nous montrait ce matin?
Ouais. Il y a eu des mélanges, des Photoshop de Trump avec la tête d'un chien, etc. Enfin, moi, c'était. On a vu de tout, mais c'était risible par rapport à sa prestation, je pense. Mais s'il avait fait un superbe match, on aurait dit, voilà, sa coupe de cheveux serait passée à côté. Peut-être qu'il y aurait eu moins de moqueries. Enfin voilà, donc pour ce match, match nul finalement, un but partout, c'est une grosse déception je pense pour les Brésiliens qui auraient voulu une victoire. Mais on a vu un peu les Brésiliens un peu trop beaux je pense dans tous les médias avant ce match-là, en pensant à Neymar, Marcelo, Casemiro, etc. Et on espère surtout pour le prochain match. Alors leur prochain match, ça sera contre qui? Vous avez une idée, non?
C'est pas la Serbie. Je regarde, attends. Non, je vais vous confirmer ça, les gars, j'ai le programme sous les yeux.
Ouais.
Costa Rica.
Costa Rica, ouais, c'est vrai. Tout à fait, ouais. C'est le
Vendredi.
bah, ça va être un duel sud-américain. Le Costa Rica qui n'a pas livré une grosse, grosse performance, hein, finalement. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire contre eux. Hein.
Et puis battu par un superbe coup franc de Kolarov qui prouve que c'est fait partie des meilleurs spécialistes au monde. Parce que Kolarov, à chaque fois qu'il y a un coup franc bien placé, ça fait souvent fait mouche. Hein. Ça n'acquitte à cette. Je trouve que c'est un joueur qui est sous-estimé, il a d'ailleurs il est parti de City et je trouve qu'à la Roma cette année j'ai trouvé bon et je trouve que là qu'il confirme voilà que c'est il fait partie des très bons latéral gauche dans le monde.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, on a eu aujourd'hui un Belgique-Panama, et on parlera du dernier match de Suède-Corée du Sud à la fin. Belgique-Panama, bah, c'était l'entrée en liste des Diables Rouges, et on a une belle victoire, 3 buts à 0. Ça a été très difficile en première période, hein, parce que les joueurs panaméens ont vraiment bien résisté physiquement et techniquement, ils ont proposé des actions aussi en attaque. C'était un football assez généreux et assez surprenant hein, parce que le Panama, c'est une équipe qui a jamais joué en Coupe du Monde, c'est ça, hein, je crois.
C'est leur première compétition, la première Coupe du Monde.
Et on a vu quelques larmes de joie là pour les joueurs à l'hymne national et qui étaient assez émus d'avoir qualifié leur pays pour la première fois devant les États-Unis et le Honduras qui avaient participé à la Coupe du Monde 2014. Le Panama, vraiment, je trouve que c'est une belle surprise et faudra peut-être voir le second match pour voir ce qu'ils nous font. Malheureusement, ils n'ont pas une superbe défense. Et
C'est l'Angleterre, c'est plus les groupes de l'Angleterre et la Tunisie.
voilà. Est-ce que vous avez regardé ce match-là, Belgique-Panama?
Moi, je l'ai vu plus la fin du match. Voilà, donc je veux dire une équipe belge qui a priori, d'après ce que j'ai entendu à la radio, c'est que beaucoup de déchets techniques en première mi-temps, ils sont beaucoup compliqués la vie. Puis après qu'ils aient marqué le premier but, les autres ont commencé à reculer physiquement, à perdre pied. Puis c'était beaucoup plus simple, mais la Belgique doit faire et peut faire beaucoup mieux.
Vas-y, Florian. Hein.
Ouais, j'allais dire, la Belgique a galéré, ce que disait Thibaut, a galéré en première mi-temps en fait. Et quand j'ai vu la première mi-temps de la Belgique et qu'à la mi-temps il y avait 0-0, ça m'a fait penser à pas mal de matchs qu'il y a eu depuis le début de la Coupe du Monde, où il y a souvent 0-0 à la mi-temps et tout ça, et ça se débloque seulement en deuxième mi-temps. C'est tout le temps les premières mi-temps, c'est serré, les attaquants ils cadrent pas trop les tirs, c'est. Et en deuxième mi-temps, ça se débloque à un moment donné. Et là, ça fait exactement la même chose, quoi. Mertens, il nous met encore un but venu de nulle part. De Bruyne, sur le deuxième but, il te met un extérieur pour la tête de Lukaku, enfin, sorti de nulle part aussi. Honnêtement, là, la Belgique, là, ils m'ont pas dire impressionné, mais niveau technique, honnêtement, là, c'est vraiment les plus beaux buts que j'ai vus pour le moment dans le mondial, hein.
Et la Belgique, je suis curieux de voir l'affrontement Belgique-Angleterre, ça va être très surprenant. L'affrontement va risquer d'être très intéressant.
Ah ouais,
Ouais.
génial. Ouais. Je pense que ça fait très longtemps dans une compétition européenne ou mondiale qu'ils ne se sont pas rencontrés, hein, peut-être depuis 90, hein, je ne sais pas, mais j'ai pas de souvenir. Parce qu'en 94, l'Angleterre n'y est pas. 98, ils n'étaient pas dans le même groupe.
La Belgique s'était fait sortir en poule.
Voilà, en plus. 2002, alors là, peut-être. Enfin,
Non, ils ne sont pas affrontés. Ils
pas
sont
du
pas
pas de
affrontés.
souvenir, l'Euro 96, pareil, la Belgique
Et
n'était pas.
surtout qu'en Belgique, je veux dire, ça va être. Il y a beaucoup de joueurs belges, je pense que la plupart jouent en Angleterre. Que ce soit Eden Hazard, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Thibaut Courtois. Donc, ce sera un match que les Belges auront à cœur de ne pas perdre. Et surtout à gagner, parce que c'est comme un peu Belgique-France quand ils s'affrontent. Bon, pour eux, ce sera une question de, voilà, pas de fierté, mais presque, hein, de ne pas perdre contre l'Angleterre.
Ouais, c'est des pays frontaliers pratiquement, on va dire, même s'il y a la Manche qui sépare, c'est pas. c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de gens qui voyagent à travers ces pays, qui vont en vacances, qui se rencontrent, comme les Pays-Bas, hein, c'est des pays, Pays-Bas-Belgique, ça fait des gros derbies. C'est vraiment dommage que les Pays-Bas n'aient pas une bonne équipe pour avoir, pour participer à cette Coupe du Monde finalement, parce que on aurait eu des superbes matchs, un peu comme des France-Angleterre ou des Belgique-Pays-Bas, quoi, ça aurait été sympa pour les supporters. Mais dans ce match-là, pour l'avoir regardé en entier, moi ce que j'ai apprécié, bon, c'est surtout Mertens, comme vous avez dit, qui est fidèle à ce qu'il fait au Napoli. Hein. C'est vraiment un superbe joueur. Il n'est pas tout le temps titulaire au Napoli, mais dans l'équipe de Belgique, il a sa place avec De Bruyne et Hazard. De Bruyne, je l'ai vraiment trouvé en dedans. Il n'avait pas l'air forcément motivé. Je ne sais pas ce qu'il avait. Il a fait un peu coup franc à un moment donné, il n'a pas pris le jeu à son compte, j'ai trouvé ça dommage. Et Hazard, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de dribbles inutiles. Tu sais, il a fait comme Messi, il avait le ballon, il partait dans un côté, il revenait en arrière pour faire la passe qu'il aurait dû faire 10 secondes avant. On a trouvé un Hazard un peu. Qui avait du mal à trouver Lukaku, c'est plus ça, je pense. Mais c'est des choses qui peuvent se régler. Et puis quand tu sais qu'ils ont gagné 3-0 avec la manière en deuxième période, comparé à la France qui a vraiment, vraiment galéré sur tout le match, tu te dis que la Belgique, ils sont déjà bien. Et s'ils montent en puissance, bah, ça peut faire mal, hein, dans
Et
les.
puis ils ont eu un très bon banc. En plus, je trouve qu'entre Thorgan Hazard qui a vraiment progressé en Allemagne avec Dembélé, le joueur de Tottenham qui est un super joueur. Donc non, l'équipe. En sachant qu'on oublie la Belgique, malheureusement que Radja Nainggolan ne fait pas partie de cette sélection.
Ouais.
Mais c'est vrai que la Belgique a un très bel effectif. Hein.
Ah ouais, superbe. C'est une superbe équipe. Et je pense que, tu sais, ils ont fait pas mal de simulations avant cette Coupe du Monde au niveau des stats et des joueurs, etc. Et souvent, la Belgique arrivait en finale et en demi-finale dans cette Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, mais finalement, quand tu vois l'arbre justement des huitièmes de finale côté gauche où tu auras la Russie, l'Uruguay, enfin si après bien sûr l'Allemagne finit pas deuxième, hein, si l'Allemagne finit deuxième, ils seront du côté où justement il y aura la Belgique. Mais le Brésil-Allemagne que tout le monde attend en huitièmes de finale, il peut avoir lieu si. Comment dire, le Brésil finit deuxième et l'Allemagne premier de son groupe, ça peut faire un gros éliminé dès le début. Et après, tu auras une voie un peu plus libre pour les équipes moyennes et du haut de tableau, quoi. On va dire, ça sera plus jouable pour des équipes comme la Russie, l'Uruguay et la Belgique d'arriver en finale. Mais bon, on n'en est pas là encore, c'est certain, quoi, voilà. Toi, Florian, tu as apprécié qui comme joueur du côté belge aujourd'hui?
On va dire Lukaku pour ses deux buts, présent dans la surface. J'allais dire De Bruyne, mais je trouve que De Bruyne et Hazard, ils n'ont pas assez pris le jeu à leur compte, surtout Hazard. On attendait Hazard à un autre niveau que ça, surtout contre le Panama, et il aurait dû plus peser sur le match, quoi. Mais je dirais Lukaku, l'homme du match, pour son doublé.
D'accord. Bon, Thibaut, je te demande pas, vu que t'as pas vu le match en entier.
Mais je pense que, bah, par rapport on prend pas but Lukaku, puis quand même un grand coup de chapeau à lui, parce que je crois qu'il est à 36 buts en 64 ou 65e sélection. Il a un super ratio, puis c'est parti des très bons buteurs, et puis je serais pas surpris qu'il soit pas très loin des meilleurs buteurs à la fin de la Coupe du Monde.
Ah bah, elle est bien partie, hein. C'est comme Cristiano Ronaldo qui a déjà 3 buts d'avance sur pratiquement tout le monde. Donc, ça va être. Quand on sait que dans une Coupe du Monde, tu marques 5 ou 6 buts en général.
C'est ça. Bah, le record, il y a eu Thomas Müller je crois que en 2010 qui était pas très loin de qui avait je crois dépassé les 6. Bon, il me semble qu'il avait dépassé les 6 ou 7. Sauf erreur de ma part.
Est-ce qu'on peut déjà dire que Ronaldo a gagné le Ballon d'Or?
Ouais, moi je pense que
ça dépend le parcours du Portugal, parce qu'imaginons que le Portugal s'assimile les premiers tirs, imaginons qu'il parte des deux prochains matchs, ce qui peut arriver, mais et que Messi, je veux dire, se réveille et gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine.
Comme tu dis, la Coupe du Monde, quoi.
C'est ça. C'est après, ça, donc, mais Portugal, il n'est pas parti, c'est sûr, Cristiano.
Tu voudrais dire que le Portugal perdrait contre le Maroc et l'Iran, quoi.
Bon, j'ai du mal à croire que Messi ait un ballon d'or, parce que franchement, il n'y a plus l'histoire du marketing dans ce FIFA ballon d'or. C'est fini, c'est France Football maintenant qui le donne. Et je vois pas comment tu peux donner un ballon d'or à Messi qui a fait. Bon, il a gagné la Liga, ok. Mais au niveau.
Mais
il s'est planté.
Mais je pense que ça c'est Ronaldo, je pense. Normalement, c'est bien parti pour.
Ouais, je pense. Bah, je sais pas si vous avez vu, on fait une petite aparté, mais il y a eu un petit tacle de Zlatan qui est pas à la Coupe du Monde.
J'ai vu ça.
Il a taclé un peu Deschamps en disant que si tu veux gagner la Coupe du Monde, il faut prendre les meilleurs joueurs. Et quand il voit que Benzema n'y est pas. Pour lui, Deschamps n'a rien à faire comme entraîneur.
Du Zlatan.
C'est du Zlatan, quoi. Et puis là, il a donné un petit coup de pouce aussi à Pogba en le défendant, en lui disant que les gens étaient juste jaloux de l'argent qu'il gagnait et que c'était pas sportif les critiques que Pogba recevait. Bon, je suis pas trop d'accord avec lui par contre là, mais bon. Enfin voilà quoi. Donc on va arriver sur ce Suède-Corée du Sud. Et bon, c'est un match, je pense, que très peu de gens ont vu. Moi, je l'ai vu. Je ne sais pas si tu l'as vu, Florian, ou pas, toi?
Ouais, si, je l'ai vu en entier. Ouais.
Vu en entier aussi. Et la Suède, ils m'ont surpris. Je ne sais pas quoi dire, parce que, sincèrement, cette équipe de Suède, on est à des années-lumière de l'équipe de Martin Dahlin et de Thomas Brolin. C'est une équipe un peu de déménageurs. Voilà, ils font tous 1m90-95 et il n'y a pas vraiment de jeu sur le terrain. Là, ils ont. Je sais pas. Moi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Parce que sincèrement, la Corée du Sud, à part les voir courir partout dans tous les sens et rater leurs actions comme le Mexique, j'ai trouvé ce match un peu fouillé, quoi. Voilà, avec plein de fautes aussi, énormément de fautes.
Après, là, sur ce que j'ai vu, la Suède, en première mi-temps, ils ont eu pas mal d'actions offensives. Mais je ne sais pas si tu te souviens, le gardien sud-coréen, ce qui sort quand même.
Ah oui.
À un moment donné, à bout portant, il fait un arrêt. Mais voilà, ouais, dans l'ensemble, la Suède, c'est un peu brouillon. Et celui qui a pris la place de Zlatan, je cherche son nom, c'est Marcus Berg, ouais, voilà. Ouais. Marcus Berg, je ne le trouve pas très adroit devant le but, quoi.
Non.
Si c'est ça leur attaque, disons que ça se fait peur.
Il a été comment, Emil Forsberg, qui est vraiment pour moi un très bon joueur? Donc vous l'avez trouvé comment dans ce match?
Transparent, honnêtement transparent.
Ouais.
Parce que c'est un joueur qui, je trouve, très fort. Et puis je crois que la Suède, prochain match, c'est pas l'Allemagne qui joue ou... C'est le groupe de l'Allemagne, ouais, c'est ça.
La Suède. Peut-être.
Non, mais Suède-Mexique en tête, ouais.
En tout cas, le gardien, c'est vrai, de la Corée, là, était très bon. Hein. Il a un look un peu spécial, un peu androgyne, là. Mais il a été hyper efficace sur plein d'arrêts et tout. Il a pas l'air, tu sais, robuste et tout. Il a l'air frêle. Mais finalement, c'est un bon gardien et il a fait des bons arrêts. Et la Corée s'en sort bien à un moment donné parce qu'il y a eu plein de fautes qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre. Alors, il y a eu des polémiques sur l'arbitrage vidéo qui, pour une fois, s'est plus ou moins bien passé au niveau de la régie. Parce que là, j'aimerais bien savoir le nom des arbitres qu'il y avait en régie. Je sais qu'il y avait Clément Turpin, je crois, pour le match de l'Allemagne en régie. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer.
Je ne sais pas du tout. Non.
C'est des arbitres en fait, qui ne sont pas de la même nationalité en régie et puis sur le terrain.
C'est ça, ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, ouais. Hier, genre, il y avait. Je crois qu'il était italien, l'arbitre de vidéo. Je ne sais plus si c'était le match du Brésil, là,
ouais,
c'est ça.
Ouais. Et là, on a eu un arbitre, mais qui n'en avait rien à faire de ce qui se passait sur le terrain. Je pense qu'il regardait le match avec des chips et puis de temps en temps, il appuyait sur le bouton quand tout le monde le regardait, quoi. Mais c'était vraiment hallucinant. Il y a eu deux pénalties, voire des cartons jaunes aussi qui ont été oubliés par l'arbitre central Aguilar, qui était très mauvais, mais mauvais. Il a trop laissé jouer. Alors, je ne sais pas où il arbitre, si c'est un Mexicain, un Uruguayen, je ne sais pas, un Espagnol.
A priori, c'est un Mexicain, je crois.
Je pense qu'Aguilar, c'est Mexicain aussi. Ou peut-être même Paraguayen, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, je ne sais pas où il arbitre, quel championnat il arbitre, mais je plains son championnat. Hein, c'est. Waouh, mon Dieu, quoi. Les contacts qu'il laisse faire et tout, c'est plus du football à un moment donné. Hein. On a vu des cisaillements de cheville, etc. Par derrière dans la surface, personne ne bronche. Enfin bon, bref, je pense que c'est un arbitre qu'on ne reverra pas dès les huitièmes. Je ne sais même pas s'il arbitre un autre match. Mais c'est très mauvais arbitrage, j'ai trouvé. De la régie, et puis il n'y a que les
Turpin
arbitres
va,
qui étaient bons. Ouais.
en parlant de Turpin, il va arbitrer l'Uruguay de Cavani jeudi, le mercredi.
Ah, il va se le faire alors. Il va se le faire.
Donc, et en plus Uruguay-Iran. Donc, et d'ailleurs, moi, je serais curieux de voir là, si Suarez va s'amuser à faire son cinéma habituel. Ce serait marrant.
S'il marque, tu veux dire?
Non, Suarez, s'il fait, c'est un peu, c'est pour, genre, s'il prend un petit coup, il en rajoute 2 tonnes. Je suis très curieux de voir ça.
Un peu comme
Comment il va.
Kroos qui a essayé de parler à ras de la tête de l'arbitre pendant la manne Mexique. Et sur Twitter, il y a plein de gens qui ont dit, bah voilà, c'est pas le Real Madrid avec lequel tu joues là ce soir. L'arbitre est pas avec toi. Parce qu'il a essayé, Toni Kroos a essayé plein de fois d'influencer l'arbitrage. Et on a vu, ce que, par rapport à ce que tu dis, tu vois, Suarez, s'il essaye d'impressionner Turpin, je pense que ça va pas marcher. Et Turpin a vu il avait donné un penalty à l'AS Roma, tu sais,
Contre Barcelone, je me
contre
rappelle, ouais.
Barcelone. Je pense pas qu'il a le Barça dans son cœur, Turpin. Donc, mais les arbitres sont impartiaux, donc.
Voilà. Mais c'est vrai, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses injustices pour l'instant par rapport à l'arbitrage, pour les matchs, pour le moment. Pas eu
Honnêtement.
de favoritisme, je trouve.
Ouais.
Oh, parce qu'honnêtement, l'arbitrage de cet après-midi, pour revenir à ce que disait Gabi, il était vraiment, mais vraiment ignoble, quoi.
Ouais.
Parce que sur le penalty, là, le penalty qu'il a revu à la vidéo, là, c'était clair qu'il y avait penalty. Enfin, le mec, il se fait découper en deux dans la surface et l'autre, il dit non, ça joue, quoi. Voilà. C'est
Les
complètement
sept doigts, ils
ignoble.
s'en foutent. J'ai vu l'image tout à l'heure, le résumé, là, ce qu'ils sont passés sur Beansport. T'as les
Ouais.
cinq Suédois qui sont venus, l'arbitre était tout petit, et les cinq Suédois agréants qui sont venus me voir, qui ont eu peur.
Mais
Ah.
cet arbitre, il m'a fait penser aux arbitres bénévoles que t'as parfois dans les tournois de foot le dimanche en été avec les jeunes, tu sais. Des mecs qui sont là parce que voilà, c'est le père d'un des joueurs et puis on les met sur le terrain avec un sifflet et puis ils connaissent pas les règles en fait, tu sais. Il m'a fait penser, il avait l'air complètement paumé cet arbitre. Alors je sais pas s'il y a un quota d'arbitrage qu'il faut prendre dans certains pays, même s'ils sont pas bons, j'en sais rien, mais là on a atteint un niveau là, c'est assez inquiétant quoi. Mais bon. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, Florian, l'arbitrage vidéo, il a été bénéfique dans le bon sens du terme pour les équipes qui méritaient de l'avoir, comme l'équipe de France ou d'autres penalties qu'il y a eu avec. Je sais plus si c'est l'Argentine qui a eu recours à l'arbitrage vidéo aussi pour le penalty.
Non, non, a priori, l'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo, donc il a tout de suite signalé.
Ouais.
Et j'ai l'impression que quand l'arbitre siffle penalty, si les arbitres vidéo interpellent l'arbitre, peut-être il le regarde à ce moment-là, mais s'il n'interpelle pas, c'est que, je veux dire, quand il est dans sa décision, c'est que voilà, pour eux, il y a penalty aussi, parce que je pense que comme ils ont les images en même temps.
Ouais.
Et je trouve que l'arbitrage vidéo pour les penalty, je trouve que c'est au moins, c'est une bonne idée, mais il faut arrêter le temps d'attente, 1 minute 30. Vous vous souvenez, après France-Australie, ce qu'on disait samedi,
Ouais.
là-bas, il est au milieu de terrain, l'arbitre, à un moment, arrête le jeu. Donc, je pense que la décision devrait être prise beaucoup plus rapidement.
Ouais, tout à
Mais
fait.
vous noterez que pour le moment, l'arbitrage vidéo n'a servi que pour les pénaltys. Il
Ah, ouais,
n'a jamais été servi pour autre chose pour le moment, depuis le début de la Coupe du Monde.
parce que c'est vrai que dans le Espagne-Portugal, le coup porté par Diego Costa, où il marque son but en écartant un joueur, bon, c'est.
Pépé.
Voilà, l'arbitrage vidéo, là, il n'est pas utilisé pour ce genre de choses pour le moment, mais je pense qu'on va y arriver assez rapidement aussi, hein, parce que si je veux dire, les joueurs peuvent faire n'importe quoi tant que l'arbitre ne le voit pas, il y a plein de joueurs qui vont commencer à faire des coups par derrière, un peu comme les Sergio Ramos, les Pep, etc. Ils vont pas se gêner, à mon avis. Hein.
Après, c'est peut-être pour les premiers matchs des premiers tours, comme ça, peut-être le temps de se mettre au point, j'en sais rien.
Ouais, faut
Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que combien de matchs tu as eu ce week-end ou depuis le début de la compétition, qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel à la fin, quoi.
Ouais, beaucoup, hein. Il y a eu 6 minutes là, à Corée du Sud, Suède, tout à l'heure, carrément. 5 minutes plus 1 minute rajoutée à cause de je ne sais quoi. Non,
Pareil hier pour le Mexique, il n'y a pas eu genre un grand 5-6 minutes d'arrêt de jeu contre Mexique et Allemagne, non?
Peut-être,
Il y
ouais.
a eu, je crois qu'il y a eu un match, il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu, je crois. Je ne sais plus lequel que c'était, mais c'était ce week-end, il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu.
Parce que si, parce qu'à la base, c'est la règle, c'est 30 secondes de plus par changement. Donc après, il suffit qu'il y ait des blessures, etc. Donc, ouais, je sais pas, tu vois.
Ouais, ouais. C'est l'arbitre africain qui avait là justement pour. Je crois que c'était le match de la Serbie qui a pas arrêté de mettre des arrêts de jeu pendant les arrêts de jeu en disant attendez, j'écoute mon oreillette pour voir s'il y a l'arbitrage vidéo, etc. J'ai l'impression qu'il entendait mal et qu'il avait besoin d'être sûr qu'on lui disait quelque chose ou pas à l'oreillette. Et, je sais pas si vous avez remarqué ça, non, vous avez pas.
Non, j'ai pas fait attention.
Je crois que c'était le match de la Serbie, ouais. Enfin, ce soir, on a donc Angleterre-Tunisie. Je vais vous demander vos pronostics pour ce soir.
Victoire de l'Angleterre, mais difficile. Allez, 2-1 pour l'Angleterre.
Et toi, Florian?
2-0 comme en 98.
2-0, ouais. Un 2-0, un clean sheet, quoi. Voilà.
Un doublé d'Harry Kane, vous suivez?
Ouais. Ouais, c'est pas mal, Harry Kane. Moi, je pense plus à un Lingard ou Dele Alli, quelque chose comme ça.
Ouais, je pense à Dele Alli aussi, moi.
Ouais. Puis il y a peut-être une frappe, des frappes lointaines à la. Ouais, on verra. Quoi. Mais je pense qu'il y aura des. Ça va être un beau match, hein, parce que la Tunisie, c'est un football un peu comme le Mexique. Ça attaque dans tous les sens, même si c'est pas construit.
Mais c'est solide défensivement la Tunisie. Je crois que leur éliminatoire, c'est une équipe qui va être solide, qui va se battre à fond. Et puis d'ailleurs, un petit dédicace à mon pote qui est tout tunisien qui va suivre ce match ce soir. Je pense que le match risque d'être compliqué pour l'Angleterre quand même, parce que la Tunisie, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer les Coupes du Monde. Puis il y a quelques joueurs, il y a Wabi Kazri qu'on connaît bien en France qui devrait jouer ce match. Donc je trouve que ça va être un match compliqué pour l'Angleterre.
C'est vrai que Kazri, va falloir vraiment le surveiller pour les Anglais, parce que c'est un des seuls joueurs qui peut faire un éclair de génie avec une frappe enroulée hors des 16 mètres ou quelque chose comme ça.
Il est très malin. Ouais. Et surtout que le gardien anglais, on ne sait pas. Je sais pas quel gardien anglais va être aligné ce soir.
Moi non plus. J'ai vu trois gardiens. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Il y a Ford, je ne sais plus qui après. Là.
Butland, je crois. Là, j'ai les compos qui sont tombés. Donc,
ouais, t'as...
Je vais dire ça tout de suite. C'est Pickford, voilà, le gardien d'Everton.
D'accord. Et sinon, en défense et en milieu de terrain, il y a qui?
Walker, Stone, Maguire, Trippier, c'est une défense à 3, je crois. Anderson, il y a Ashley Young, Jesse Lingard, Raheem Sterling, Dele Alli, Harry Kane.
D'accord.
C'est une belle équipe.
C'est l'équipe type, ouais.
Et puis, jouer à l'équipe de Tunisie, elle n'est pas dégueulasse. Hein, je veux dire. Hassen, je crois que c'est le gardien de but. Moi, Hassen, qui a joué à Nice, si je dis pas de bêtises. Il y a Chikri, il y a Sliti, le joueur de Dijon, qui est très bon. Wabi Kazri. Mais Youssef, non, il y a des joueurs intéressants en Tunisie. Ça risque d'être un match compliqué, je vous le dis, les gars.
Ouais, on attaque. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, comme il y a eu avec l'Allemagne et puis l'Argentine.
Ou l'Iran qui a surpris le Maroc. Donc, on va dire, c'est dur à pronostiquer, je veux dire, ce genre de match.
Ouais. Les Anglais, je pense qu'ils partent avec tout ça, un peu d'arrogance, comme d'habitude. Donc, il y aura un coup pour les Tunisiens, à mon avis. Hein. Les Anglais sont souvent très arrogants dans toutes les compétitions. On les a vus très mal débuter et mal finir, comme en 2010, 2014, etc. C'est des équipes vraiment... par rapport à la Première Ligue, où ils sont au-dessus des autres championnats dans leur tête, dès qu'ils rencontrent une autre nation, ils ne savent plus comment jouer, ils perdent leur football. Tu as l'impression que l'Angleterre, ça se répète tous les ans, quoi, enfin tous les deux ans.
Et puis là, ils vont essayer. Il faut pas croire qu'ils vont, en imposant simplement leur niveau physique, ils vont forcément surprendre les Tunisiens, parce que les Tunisiens, je trouve, sont très costauds physiquement. Donc, s'ils veulent rentrer dans l'art au niveau duel physique, ouais, intensité, je pense que les Tunisiens ont du répondant derrière. Donc, j'attends de voir l'Angleterre. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire ce soir.
Ouais, et le dernier gros match de l'Angleterre à l'Euro 2016, c'est contre l'Islande. Donc,
en 8e de finale, ils avaient été surpris pourtant ils avaient mené 1-0, mais après l'Islande l'avait gagné tout à fait logiquement le match.
Ouais.
Mais autre question, c'est quand est-ce que l'Angleterre a gagné la dernière fois en compétition contre une grande équipe?
Waouh, contre une grosse équipe, ils sont tous
très gros,
je crois, à chaque fois. Hein. Parce que si tu remontes en 90, ils battent le Cameroun et ils perdent contre l'Allemagne en demi. En 94, ils n'y sont pas. 18, ils perdent contre l'Argentine.
En 96, ils ont été éliminés à Wembley par l'Allemagne. À l'Euro.
Quand même, ils éliminent l'Espagne au tir au but chez eux.
C'est ça, c'était l'époque où l'Espagne était pas flamboyante, c'est sûr. Mais c'est vrai que un grand exploit en compétition, je veux dire, l'Angleterre, je veux dire, toujours contre les grosses équipes, elles ont en 2002 au quart de finale contre le Brésil avec un but exceptionnel de Ronaldinho. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont un gros match contre des équipes qui sont un peu plus fortes qu'elles. Chaque fois, je veux dire, elle craque.
Et l'Euro 2004, ils perdent contre le Portugal, je crois, ou les pays.
Au tir au but. Hein.
Contre le Portugal.
Ils perdent Portugal au tir au but. Ouais. En quart.
Et sinon, après 2006, c'est pas bon, hein, je crois. Hein. Ils sortent en.
2006, en anti-tir au but, ils contre le Portugal aussi.
Ah,
J'ai des bêtises. Ils avaient affronté qui il me semble qu'ils ont été, ils ont été sortis. Je sais plus si c'est le Portugal ou. Ah si, c'est le Portugal, vous vous souvenez de l'histoire avec Ronaldo qui avait expulsé Rooney, voilà. Ouais, c'est contre le Portugal, ils ont été sortis.
Ouais. Donc, ouais, les Anglais, ils se font sortir contre les gros à chaque fois, ouais, pratiquement. On a...
Fort avec les faibles, faible avec les forts. Ouais. Ça, c'est l'Angleterre en compétition.
Ouais, mais puis ils sont très bons chez eux aussi, les Anglais. Hein. Malheureusement, ils jouent souvent à l'extérieur aussi, donc. C'est toujours pareil. Donc voilà les gars, on va se quitter sur ça et puis on se donne rendez-vous demain pour parler de Angleterre-Tunisie et puis les autres matchs qu'il y aura demain. Ça sera la Russie qui va jouer encore, c'est ça ou...
Ouais, mais c'était les derniers... Non, il y a le groupe de la Colombie, la Pologne.
On a oublié la Colombie, Pologne-Colombie et il y a c'est le groupe avec les deux autres équipes, je sais plus.
Sénégal et Japon,
ouais.
Pour moi, c'est la poule qui est la plus incertaine. Les trois équipes peuvent se qualifier. Le Japon, j'y suis loin derrière. Mais c'est ça, demain, Colombie-Japon. Donc je pense que la Colombie devrait, sans manquer de respect de Xavi Nippon, ça va être une formalité pour les Colombiens. Pologne-Sénégal, c'est vraiment du 50-50 ce match.
C'est dingue, hein, parce que c'est un groupe avec un pays de chaque continent. Ouais, c'est rare. Hein.
Et puis Russie qui affrontera l'Égypte demain soir.
Ah bah j'espère que Mohamed Salah sera là par contre parce que il est temps qu'il rentre. Hein. Même s'il est un peu blessé, il faut à tout prix qu'il joue parce que si l'Égypte perd, c'est fini pour eux.
Ouais. Il va être bien accueilli par les supporters russes parce que vous avez vu la polémique avec un président kazakh ou pas kazan.
Oui, oui.
Afghan, oui, donc Tchétchène. Voilà. Donc il va être bien accueilli là-bas, mais puis l'Égypte n'a pas le droit à l'erreur, parce que la Russie demain peut se qualifier en battant l'Égypte.
Et ouais.
Il me semble que s'ils battent l'Égypte, ils éliminent pratiquement l'Égypte. Et puis.
Ouais. Bah de toute façon, quand t'as que 3 points à la fin du groupe, c'est qu'il y a deux gros vainqueurs qui ont distancé. Et puis toi, tu peux être à la limite dans les meilleurs troisièmes, mais là, il n'y a pas de meilleur troisième, donc.
Tu sais, là, d'ici jeudi, dans le groupe A, on peut avoir les deux qualifiés. Hein. Si l'Uruguay tape l'Arabie Saoudite, si la Russie tape l'Égypte,
D'ailleurs, je vous annonce, les gars, un petit triplé de Cavani contre l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il va se faire plaisir.
J'espère qu'il va se faire plaisir, hein, Cavani.
Ah oui, ça fait plaisir contre l'Arabie
Saoudite. Ouais, il a intérêt, hein, parce que là, si l'Uruguay il joue la défense contre l'Arabie, ils n'ont pas tout compris, je pense. C'est clair. Ouais.
Pour finir, vous avez vu l'image avec le gardien de l'Arabie Saoudite qui tourne sur les réseaux sociaux ?
Non,
j'ai pas. Vas-y, raconte.
En fait, ils ont pris sur tous les buts de la Russie. À chaque fois que le mec il tire, en fait, il plonge le gardien, mais il ferme les yeux.
Oui.
Oui, ça. Ça pas mal ça.
Ouais, c'est étonnant. Bah après, sur le dernier tir où il se prend le coup franc, il a peur que la balle tape le poteau, peut-être. On peut penser que il fait exprès de fermer les yeux, mais. En même temps, t'as un gardien de but, quoi. Si tu fermes les yeux à chaque fois que t'as la balle qui arrive sur toi, c'est compliqué. Bon, ok, merci les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci à vous.
Attendez, je vais juste faire une petite dédicace à ma collègue Valérie. Je lui avais promis que je ferais une dédicace et chose faite. Et puis, je voudrais encore souhaiter aussi un joyeux anniversaire à ma collègue Hélène qui a eu 40 ans vendredi. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour eux deux.
Bah, c'est cool. Pas de souci. Une dédicace à Florian ou pas?
Non, pas spécialement.
D'accord. Pas de problème. Bon, allez, bonne soirée. Merci, les gars.
Bonne soirée, ciao.
Ciao.